Chapitre 19. Dans le cabinet du roi. Pendant que ses messagers se laissaient ainsi surprendre par Vivonne et sa bande, le roi était assis seul dans son cabinet. Au-dessus de sa tête brûlait une lampe parfumée, tenue par quatre petits amours en cristal que maintenaient quatre chaînes d'or. Le mobilier d'ébène incrusté d'argent, le riche tapis de la savonnerie, les soies de Tours, les tapisseries des Gobelins, les garnitures d'or et les fines porcelaines de Sèvres, tout ce que la France pouvait produire de plus riche et de plus luxueux, était réuni entre ces quatre murs. Et au milieu de toute cette opulence était assis le maître, le menton appuyé dans sa main, le coude sur la table, les yeux fixés au mur, le regard absent, l'air pensif et absorbé. Et tout son passé remontait dans sa mémoire avec l'irréparable de sa jeunesse envolée. Des accès de goutte, d'inquiétants vertiges venaient à chaque instant lui rappeler qu'il était déjà sur l'autre penchant de la colline. Et pas un seul ami véritable, pas un seul, dans son pays, dans sa cour, dans sa propre famille même, à l'exception de la femme qu'il allait épouser cette nuit. Mais celle-là, comme elle était sincère et vraie, et bonne, et digne. Avec elle, il pouvait espérer effacer, par la gloire des années qui lui restaient encore à vivre, les erreurs et les folies du passé. Si cet archevêque pouvait ne pas tarder, afin qu'il pût être bien sûr qu'elle serait à lui pour la vie. Un coup fut frappé à la porte et Bontemps se montra dans l'embrasure. « L'évêque est arrivé, sire. »« Très bien, Bontemps. » Priez madame de se rendre ici et donnez l'ordre aux témoins de se réunir dans l'antichambre. Comme le valet se retirait, Loup voit entrer, hautain et majestueux. Le roi se tourna vers son ministre. « Je désire que vous soyez mon témoin, Loup voit. » « Témoin de quoi, sire ?»« De mon mariage. » Le ministre eut un haut-le-corps. « Quoi, sire? Déjà ?»« À l'instant même, dans 5 minutes. » « Très bien, sire !» Le malheureux courtisan fit tous ses efforts pour prendre un air joyeux, mais la nuit avait été pleine d'ennui pour lui, et se voir forcé de contribuer à faire de son ennemi la femme du roi, c'était le comble de l'amertume. Pendant ce temps, les préparatifs avaient été menés rapidement dans la petite chambre où brûlait la lampe rouge, devant la statue de la Vierge. Françoise de Maintenon se tenait au milieu de la pièce. Elle était vêtue d'une robe de brocart blanc, garnie de serge argent et de riches dentelles au point d'Alençon. Trois femmes allaient et venaient autour d'elle, se croisant, se baissant, se relevant, retouchant ici et là, ajoutant une épingle, refaisant un nœud, se reculant pour juger de l'effet. « Là !» dit l'habilleuse en donnant un dernier coup à une rosette de soie grise. « Je pense que cela ira, majesté, madame !» « Mes goûts ne me portent guère vers la toilette, » dit la dame. « Cependant, je tiens à ce qu'il me trouve bien mise. »« Oh, madame est facile à habiller. Madame est admirablement faite. Quelle toilette ne paraîtrait jolie, avec un cou, une taille et un bras comme ceux de madame, pour la faire ressortir ? Quelle difficulté nous éprouvons quand il nous faut refaire le corps en même temps que nous faisons la toilette. Voilà la princesse Charlotte Élisabeth. Elle est petite, mais très forte. C'est incroyable comme elle est épaisse. Il lui faut plus d'étoffe que pour madame, bien qu'elle soit d'une bonne tête plus petite. » Mais madame de Maintenon n'écoutait guère le bavardage de l'habilleuse. Ses yeux étaient fixés sur la statue et ses lèvres murmuraient une prière, suppliant Dieu de la rendre digne des hautes destinées auxquelles il l'avait appelée si soudainement. Un coup frappé à la porte vint interrompre sa prière. « C'est Bontemps, madame, » dit mademoiselle Nanon. « Il dit que le roi est prêt. »« Alors nous ne le ferons pas attendre. Venez, mademoiselle, et que Dieu bénisse l'acte que nous allons accomplir. » Le petit groupe s'assembla dans l'antichambre du roi et se rendit de là à la chapelle particulière. Devant marchait le majestueux évêque, tout gonflé de l'importance de sa fonction, les doigts entre les pages de son missel à la rubrique « De matrimoniis ». Près de lui se tenait son aumônier et deux petits serviteurs de la cour en soutane rouge et en surplis, portant des torches illuminées. Le roi et Madame de Maintenon marchaient l'un près de l'autre, elle calme et réservée, les yeux baissés, lui les joues un peu empourprées, le regard nerveux et furtif, comme un homme qui a conscience qu'il traverse une des grandes crises de sa vie. Derrière eux, dans un silence solennel, suivait un petit cortège de témoins choisis, le maigre et silencieux père Lachaise, Louvois, dont les regards haineux et narquois ne quittaient pas la mariée, le marquis de Charmarante, Bontemps et Mademoiselle Nanon. Comme ils avançaient lentement, à travers les galeries et les salons conduisant à la chapelle, les yeux du roi se portèrent sur les portraits de ses ancêtres et de ses parents qui garnissaient les murs. Au moment où il passait devant celui de la reine défunte, Marie-Thérèse, il tressaillit et eut un mouvement d'horreur. « Mon Dieu » murmura-t-il, « elle a froncé le sourcil et m'a craché au visage. » Madame de Maintenon posa sa main sur sa manche. « Ce n'est rien, sire, » murmura-t-elle d'une voix caressante, « c'est le tremblement de la lumière sur la peinture. » Cette voix produisit sur lui son effet habituel. L'expression hagarde de ses yeux s'évanouit, et mettant sa main dans celle de sa compagne, il se remit résolument en marche. Quelques minutes plus tard, ils étaient devant l'autel, et les paroles qui devaient les unir pour toujours furent prononcées. Comme il revenait, il y eut un bourdonnement de félicitations autour de la dame, au doigt de laquelle scintillait l'anneau de l'épouse. Elle était toujours calme et pâle, mais le sang affluait avec force à ses tempes, et elle songeait « Je suis reine de France maintenant, reine, reine, reine !» Mais une ombre s'approcha de sa joie et une voix murmura dans son oreille « Souvenez-vous de la promesse que vous avez faite à l'église !» Elle tressaillit et se retourna pour rencontrer le visage émacié du jésuite. « Votre main est glacée, dit Louis. Partons, nous sommes restés trop longtemps dans cette chapelle froide et triste. »